sujet d'aujourd'hui, le jugement de Dieu est bon. Ah! Prions. On va prier avant d'écouter la parole. Père, on traite un sujet délicat et difficile, mais important. Ouvre nos cœurs. Donne-nous de voir comment je peux mettre en pratique ta vérité dans ma vie cette semaine. Changer mon cœur, disposer mon esprit pour mieux te servir grâce à ta parole. Amen. On va lire le texte. Ceux qui ont leur Bible, c'est la fin du chapitre 11. Et les versets 15 jusqu'à 19. Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. » Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent, le visage contre terre. Et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. » Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Alors c'est tout un texte. Et avant de le considérer, faisons un peu de révision. Voyons deux leçons qu'on a vues dans le livre de l'Apocalypse dans les dernières semaines. Alors, on avait vu il y a quelque temps que dans l'Apocalypse, il est annoncé qu'il y a une bonne nouvelle dans le plan de Dieu, c'est que Dieu crée l'Église. Et l'Église, c'est tous ceux qui ont reçu Christ, c'est toi, c'est moi. C'est une bonne nouvelle et on voit l'Église en train de célébrer avec les anges et les anciens, dans la grande scène céleste qui est au centre du livre de l'Apocalypse. Elle a trois caractéristiques, cette Église, ou ce peuple de Dieu. Elle est nombreuse, elle est multi, puis il y a beaucoup d'accent sur le fait qu'elle est multinationale, multiethnique, multilingue, et elle est destinée au bonheur. Un peu plus tard, on a vu un sujet que devant Dieu, les anciens portent des coupes pleines d'un parfum qui symbolise les prières des saints. Et les saints, ça veut dire toi et moi, les membres de l'Église de Dieu, les membres de Christ. Alors, on avait fait un sermon, ajoute ton parfum à la coupe. Dieu aime ça quand tu pries et il garde le souvenir de tes prières. Tellement il aime ça. Et on avait vu que, whoops, il y a une leçon qui est invisible, mais je vais vous la lire. Dieu nous demande de prier non pour satisfaire tous nos désirs, bien qu'il le fasse souvent, satisfaire nos désirs, mais c'est aussi pour sa satisfaction à lui. Il a une satisfaction à nous rencontrer dans la conversation, dans la prière, et il a une satisfaction de nous voir entrer dans son plan. C'est ça qui était marqué, mais qu'on ne voit pas. Alors, persévérons dans la prière. Et Ah non, on n'est pas rendu là encore. Excusez-moi, la fameuse fourchette, je vais expliquer tantôt. Dans l'Apocalypse, on peut dire qu'il y a trois grandes parties. On a passé du temps sur la première partie où Jésus descend sur la terre, il se révèle au prophète Jean qui va ensuite parler aux églises au nom de Jésus. Il va essayer de les réveiller. Et après ça, la deuxième partie, c'est à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. C'est comme le gros de l'Apocalypse. C'est une grande vision qui se passe dans le ciel et où on voit le plan de Dieu se dérouler. Et à la fin, il y a la Jérusalem céleste qui descend du ciel. Puis ça va être très, très beau et très encourageant. On n'est pas rendu là encore. Dans cette grande vision du centre du livre, on voit justement ce peuple qui est l'Église sauvée par grâce. Et à quelques reprises, il est mentionné qu'ils sont comme les autres, sauf que Dieu les choisit, Dieu les sauve, Dieu les pardonne, Dieu les purifie. Puis il met un sceau divin sur leur front. Et c'est comme une protection sur eux. Donc c'est assez visuel. Et c'est un peuple qui est comme épargné, bien que ce peuple va souffrir, mais le pire, ils vont être épargnés parce que Dieu les a sauvés. C'est un peuple qui va prier. Donc, nous, en tant que chrétiens, on fait partie de ce peuple. On est comme au milieu du déroulement de la situation ou du plan. Nous sommes appelés à prier. Et la prière que nous prions, peut-être le plus souvent, « Que ton règne vienne », on l'a prié ce matin, « Que ton règne vienne ». Ô Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. On voit cette prière dans le livre d'Apocalypse aussi. C'est la prière constante du peuple de Dieu. Ô Dieu, viens établir ce nouveau monde où c'est toi qui vas vraiment être en charge. Il est déjà en charge, mais pour des raisons qui nous dépassent, il y a des choses qui ne tournent pas rond encore. Il y a encore la puissance du mal qui est à l'œuvre dans notre monde. On a vu une grande scène où est-ce que Jean y est transporté en haut, et puis il est dans cette grande salle où Dieu est loué. Et puis, Jésus, l'agneau, est invité à révéler le plan de l'histoire divine. C'est le prophète Jean qui va recevoir tout ce déroulement. Il va le noter. Et il y a sept sceaux. Il faut que Jésus ouvre sept sceaux. Et en fait, au chapitre 11, on est déjà rendu que le septième sceau est ouvert. Donc, le livre que Dieu a donné à Jésus est maintenant ouvert. Et là, on est en train de voir le déroulement au complet. Et après le septième sceau, il y a sept trompettes. Je vous donne beaucoup de détails, mais faut bien que je vous dise c'est quoi le contenu. Il y a sept trompettes. Les sept trompettes annoncent des malheurs, des jugements de Dieu. Ça arrive encore avant le chapitre 11. Les sept trompettes annoncent sept jugements. C'est pas drôle. C'est des choses relativement épeurantes et négatives. Mais à chaque trompette, c'est un malheur partiel, c'est un jugement partiel où les hommes peuvent encore se repentir. Alors, il y a comme un malheur, mais qui va permettre aux hommes qui le voient de venir à Dieu, recevoir Jésus et être marqués du sceau, faire partie du peuple sauvé. Alors, 1, 2, 3, 7 trompette. Cela dit, la septième trompette, c'est au chapitre 11, c'est le chapitre dont on parle aujourd'hui. La septième trompette, C'est là où arrive le jugement définitif. Alors, la vision que nous, on voit, c'est le début de la fin. C'est sûr qu'après, il y a comme un retour en arrière dans le livre de l'Apocalypse. C'est un drôle de livre, mais au chapitre 11, on parle du jugement définitif. Il n'y a plus de recours possible, d'accord? C'est un peu comme moi avec ma voiture. J'ai un ticket, une contravention de vitesse. Ça m'est déjà arrivé. Même une fois, ça m'est déjà arrivé en venant à l'Oasis parce que j'étais en retard. Mais par contre, je n'étais pas encore le pasteur. Alors, c'est pardonnable. c'est comme... pendant longtemps, je faisais très attention. Je respectais la vitesse. Mais avec le temps, je me dis, on peut tricher un peu de temps en temps. Je n'ai pas vu de police depuis très longtemps. 100, 105, 110, 115, 120. Jusqu'à temps qu'une police me voit. Puis là, c'est une situation de non-retour. C'est pas facile d'avoir une deuxième chance quand le policier y est à la fenêtre de ta voiture. C'est fini, là. Et la septième trompette, c'est un peu ça. Ici, il n'y a pas de recours possible. Et pourquoi je vous montre une fourchette pliée? C'est juste pour vous dire que c'est les deux ensemble. C'est comme la patience de Dieu va arriver à un point qu'il a décidé qu'il n'y en aura plus de patience. Mais de la même manière aussi, nous, les humains, nous laissons, malheureusement, nos cœurs se tordre vers le mal. Et quand on plie du métal, peut-être au début, c'est facile de replier la fourchette pour qu'elle reprenne sa forme. Mais à un moment donné, si tu continues de plier du métal, tu n'es plus capable de la replier, elle va briser. Ou avoir resté plié. Peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est pour dire que notre cœur, quand Dieu te demande de te repentir, c'est maintenant qu'il faut se repentir parce que Dieu est patient, mais si tu attends trop, est-ce que ton cœur va être capable de se repentir? Puis il y a un peu les deux aspects dans le livre de l'Apocalypse. La patience de Dieu qui dure jusqu'à un certain point, puis la possibilité du cœur humain de se plier à la volonté de Dieu qui diminue avec le temps. Là, on est rendu à la septième trompette après le septième sceau. Il y aura aussi sept bols de la colère de Dieu plus tard dans le livre. C'est un livre épeurant à beaucoup d'égards, mais si Jésus nous l'a donné, c'est pour nous enseigner. Parlons de la septième trompette ici. Le jugement final, pas d'appel possible. Les fourchettes ne sont plus réparables. Et la grosse question de ce matin, si on observe l'exemple des chrétiens du livre de l'Apocalypse, ce sont des chrétiens qui sont déjà dans le ciel. Et nous les voyons en train de prier que ton règne vienne, mais aussi que ton jugement sur le mal viennent. Comment est-ce que nous, on peut les imiter? OK? Je répète la question. Comment pouvons-nous prier pour que le jugement final de Dieu vienne, comme le font les saints de l'Apocalypse? C'est pas évident parce que j'ai dit que c'était un malheur. Que savons-nous? Peut-être une majorité de personnes, le jugement de Dieu va être un malheur. Comment est-ce qu'on peut se joindre à cette prière que ton jugement vienne? Comment peut-on nous joindre aux anciens qui remercient Dieu parce que son jugement finalement est venu? Voilà un peu la question difficile de ce matin. Et la réponse courte qui résume un peu ce que je vais dire, c'est que nous, les chrétiens, on serait les personnes qui seraient censées avoir goûté à la perfection de Dieu, à toute sa beauté, à son amour et à sa pureté. Et il y a eu un changement dans nos désirs. Bien que nous continuions à désirer le bien de tous les hommes, surtout de ceux qu'on aime, quelque chose est devenu encore plus important. Et cette chose, c'est ce désir ardent de voir la perfection de Dieu se manifester dans l'univers entier. Qu'elle remplisse l'univers, cette perfection, cette gloire de Dieu. C'est un nouveau désir qu'on a et qui fait que Dieu met en nous le désir de voir son règne venir, le mal éliminé et, oui, le jugement du mal et de chaque être humain venir avant, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, la réponse courte, notre désir de voir la perfection de Dieu se manifester doit surpasser nos autres désirs. C'est quand même un désir qui va contre nature pour des gens qui ont un cœur, qui ont des émotions. Et donc, si vous trouvez que c'est difficile, je me joins à vous. C'est la parole qui nous enseigne ce matin, qui nous met au défi. Il y a une grande philosophe, je pense à elle là, sur le champ. Voyons, peut-être que quelqu'un se souvient d'elle, une juive qui est devenue une fan de Jésus-Christ. Elle s'est pas jointe à l'Église. Elle a dit, je crois en Jésus, mais je ne suis pas capable d'accepter l'idée que les pécheurs vont être jugés. Alors, je reste, moi, dans ceux qui ne font pas partie de l'Église visible, parce que je préfère mourir avec les pécheurs que d'être sauvé. Alors, c'est quelqu'un qui était presque rendu à ce désir. On comprend ses émotions. Ce que je vous dis ce matin, Dieu nous demande de faire ce pas et dire, « Ta gloire, Jésus, c'est la chose, c'est mon désir numéro un. » Ça ne veut pas dire que nous n'aimons plus les humains. Nous aimons chaque être humain. Nous chérissons la valeur de chaque individu qui est créé en l'image de Dieu. Puis, oui, on prie pour son salut. Nous valorisons la gloire de Dieu davantage, d'accord. Et pourquoi? Parce que la valeur immense de cet être humain pour lequel nous prions vient de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné. Et nous voulons que chaque personne s'enligne avec la vérité de Dieu, entre dans la gloire de Dieu. Et comme Paul prie, Paul fait cette prière à un moment donné, que Dieu soit tout en tous. Que Dieu soit tout en tous. Oui, nous voulons aussi que chaque personne qui a accepté de vivre sous l'ombre de la croix de Jésus soit justifiée dans sa foi devant tous. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens dans ta vie qui ne comprennent pas que tu sois devenu chrétienne ou chrétien. Et oui, nous prions le jour où tout le monde va voir que tu avais raison. Pas que tu étais plus smart que les autres, mais Dieu t'a donné la grâce de comprendre. Et oui, tu avais raison. Dans un sens, nous voulons aussi que ceux qui, par entêtement, ont refusé la croix, soient mis face à leur refus de ce pourquoi vraiment ils ont été créés. C'est des choses difficiles à dire, mais il faut les dire à un moment donné, surtout quand on lit le livre de l'Apocalypse. Donc, pour tout cela, pour en arriver à ce but final, il faut que Dieu fasse son jugement. Dieu, ce jour-là, va remettre tout ce qui était rendu croche, va le rendre droit. Et la Bible dit qu'il va mettre en lumière toutes les actions et toutes les pensées secrètes des hommes et des femmes. La Bible dit que Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Oui, il y aura un règlement de compte, pas de vengeance, mais de justice. Hein? Cette phrase qu'on a lue tantôt, dans son jugement, Dieu va détruire ceux qui ont détruit la terre. C'est une question de la justice de Dieu. C'est dur pour nous d'accepter ça. On est tenté de dire, mais peut-être que, est-ce que je suis vraiment du côté de Dieu? Ou est-ce que je vais plutôt lui dire, je ne veux rien savoir? Permettez-moi de nous amener dans un petit peu la logique de cela, telle que je la comprends. Je vais commencer avec un exemple terrestre de la gravité du mal et puis du fait que nous, les pécheurs, on s'organise pour ne pas l'avoir. Saviez-vous qu'il y a des compagnies canadiennes qui creusent des mines au Congo et ailleurs? Ils embauchent des milices pour terroriser les populations. Et comment ils terrorisent les populations? C'est en violant les femmes et les filles. Pour que tout le monde fuit les villages autour des mines, pour que les compagnies aient libre accès aux gisements qu'ils veulent exploiter. Ça, on ne le voit pas. On n'est pas au courant, bien souvent. Mais si moi, je suis Canadien puis j'ai un compte en banque, si j'ai un plan de retraite, qui me dit que l'argent qui entre dans mon compte, ça ne vient pas des bénéfices de ces compagnies-là? La banque le sait, mais est-ce que je leur pose la question? Qui me dit que ces intérêts-là n'est pas trempé du sang de Congolais, de Congolaises. Alors, là, je vous dis des choses qui sont... On se demande, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas traiter de comment régler tous les problèmes du monde maintenant, mais je veux parler du péché. Prenons un exemple d'une des victimes de ce genre d'activité qui est en train de se passer aujourd'hui et depuis des années dans plusieurs pays. Ce n'est pas facile si ta vie a été détruite, ta famille, ton village n'existe plus. Peut-être que tu as vu ton mari tué devant toi. Peut-être un de tes enfants a été violé devant toi. Peut-être que ton garçon a été emporté pour devenir lui aussi un soldat dans une des milices. Puis toi, il faut que tu ailles recommencer ta vie dans un camp de réfugiés où il n'y a quasiment pas de ressources, où c'est bourré de monde. Puis tu portes en toi les traumatismes de tout ce que tu as vécu. Puis pendant ce temps, les responsables des compagnies qui ont payé pour la destruction de ta vie sont récompensés avec des millions et des millions de dollars. Je vous le dis parce que j'ai été forcé de réaliser que c'est ça qui est en train de se passer. Dans cette perspective, est-ce qu'on peut comprendre que même déjà sur la terre, il y a des saints qui prie, Seigneur, que ton jugement vienne. Vous voyez que c'est un peu plus réel puis urgent. Seigneur, que ton jugement vienne. Puis je pense que c'est dans ce contexte que les anciens prient, ou dans ce contexte, dans la vision claire de toutes ces choses. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis le début de l'humanité. Je te remercie, Seigneur, parce que ta colère vient, elle est venue pour juger les morts, pour récompenser tes serviteurs, les prophètes. Les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, les humains qui prient, ils sont déjà de l'autre bord, OK? Ils sont déjà dans la gloire de Dieu. Et l'effet que ça leur fait, ils ont hâte au jugement. Parce qu'ils veulent voir cette beauté, cette gloire, cette justice de Dieu complètement en contrôle de toutes choses. Et les humains complètement soumis à cela. Mais nous, nous sommes encore embourbés dans le péché. Même les saints, même toi qui es marqué du sceau de la grâce et du salut, t'es encore un pied. Ton compte en banque, il reçoit encore des intérêts, puis peut-être même que tu as déjà commencé à nettoyer ça, mais c'est impossible de sortir complètement du monde du péché. Alors, c'est difficile pour nous aussi de voir la gravité du mal qui est autour de nous. Je pense aussi à un autre exemple, je vais garder ça court, mais le réchauffement de la planète. On est tous participants. Puis même dans la ville de Montréal, il y a des gens pas loin de nous que leur maison est détruite. Puis moi, ma maison n'est pas détruite. Je suis en train déjà de penser à mon jardinage. Enfin, surtout ma femme. Mais c'est pas facile de dire comment est-ce que je vais, moi, faire ma part pour mieux m'occuper de cette planète que Dieu nous a confiée. Et de ne pas me dire, bien, finalement, ma maison est dans une certaine altitude, je suis correct. C'est dommage pour ceux qui n'ont pas été assez smart pour acheter une maison comme moi et qui souffrent, qui ont perdu leur maison. Non, on est encore embourbé dans le mal et on va parler de ça dans un sermon plus tard quand Dieu dit aux chrétiens qui sont encore sur la terre, « Sors de Babylone ». On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça va vouloir dire pratiquement pour nous. Oui, on a, pour des bonnes et des mauvaises raisons, on a beaucoup de difficultés à chanter des cantiques sur le jugement qu'il n'y a pas si longtemps, on les chantait encore. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà connu ce chant « Gloire, gloire à l'Éternel ». Gloire, gloire à l'Éternel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, on va lire une partie du refrain. Donc, gloire, gloire à l'Éternel, mais le refrain, il dit, en parlant de Dieu, de l'Éternel, « Quand il crée, oh, qu'il est grand, qu'il est juste en punissant. » On chantait ça il n'y a pas si longtemps. Et on était chrétiens. Qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Oui, il est bon quand il pardonne. Le livre de l'Apocalypse nous rappelle qu'il faut continuer à chanter avec joie les lignes 1, 2 et 4, mais il ne faudrait peut-être pas oublier la ligne 3. Parce que nous voulons voir la gloire et la justice de Dieu régner. Ça fait longtemps que je parle. Il y a peut-être des choses que je peux. Voilà, nous te remercions. On a vu que les anciens ont dit qu'ils étaient contents de voir ce jour arriver. Maintenant, erreur à ne pas commettre. Si on demande à Dieu de nous donner une vision juste de sa justice, de son jugement, et quand on prie que ton règne vienne, c'est aussi que ton jugement vienne. Mais il y a des erreurs à ne pas commettre. Premièrement, ce serait une erreur de se réjouir faussement parce que le jugement va montrer que moi, je suis meilleur que les autres. Hein? Je crois que les chrétiens, il faut qu'on comprenne qu'on n'est pas meilleur que les autres. J'ai essayé de l'expliquer tantôt. Nous, les chrétiens, on est impliqués dans tous les péchés du monde. Ce qui fait la différence, on a compris qu'il fallait venir à la croix pour le pardon. Donc, c'est pas, j'ai hâte de que ma justice soit révélée aux hommes, ça ne sera pas ça du tout. Deuxièmement, je me réjouis parce que quelqu'un que je n'aime pas va être puni. Ça aussi, on renonce complètement à ça parce que la croix qui est quoi? C'est comme une opportunité incroyable que mon jugement, ça se passe avant, ça se passe en Jésus. Mes péchés sont pris sur lui. Il est jugé à ma place. Est-ce que tout le monde me suit? C'est vraiment important de comprendre ça. Et le pire des criminels, même le pire des présidents de compagnies de mines canadiennes peut lui aussi être jugé à la croix et être marqué du sceau. On peut tous, pendant qu'il est encore temps. Et donc, je ne me réjouis pas, je ne prie pas que tel ou tel soit puni. Dieu non plus ne se réjouit pas du jugement d'un condamné. Jamais. Voici un verset du prophète Ézéchiel, c'est pas Exode, ça devrait être EZ, hein? Ézéchiel 33, c'est Dieu qui parle et il dit, « Je ne prends aucun plaisir à voir le méchant mourir, mais ce qui me fait plaisir, c'est de le voir changer de conduite et vivre. » OK? C'est ça notre job, hein? C'est que nous, notre passion, oui, nous prions que le jugement vienne, mais en attendant, nous désirons ce que Dieu désire. C'est ce qu'il dit ici, que le pécheur change de conduite et vive, qu'il renonce à sa mauvaise conduite. Puis s'il n'est pas capable de changer, il peut demander à Jésus de venir dans sa vie, vivre une nouvelle vie en lui. Il y a de l'espoir pour tout pécheur. Et c'est pour ça que nous, notre job, notre situation dans la grâce, que ça soit clair pour chacun de nous, c'est on n'est pas meilleur que les autres, on est pardonné. Donc, on veut être du monde humble devant les autres. On veut être du monde qui sont confiants d'avoir été acceptés par Dieu à cause du prix tellement élevé qu'il a payé pour te sauver en se faisant homme et en mourant à ta place. Et oui, nous aurons des récompenses. C'est un aspect qui peut aussi paraître injuste dans le jugement, c'est que toi, tu vas aussi comparer devant Christ à la fin des temps. Mais si tu es marqué du sceau, les péchés que tu as commis, le mal que tu as fait, il est déjà pardonné, va peut-être être mis en lumière, mais va être, il y aura aucune condamnation. C'est plus, voici les choses pour lesquelles tu as été pardonné. Mais aussi, tout ce que tu as permis à Christ de faire à travers toi, ça va être mis en valeur. Tu vas recevoir des récompenses. Et nous ne serons pas en compétition. Moi, par exemple, moi et Liette, je ne vais pas être, elle va recevoir plus de récompenses que moi. On va tous être acceptés. Si elle reçoit des récompenses plus glorieuses que les miennes, ça ne sera pas grave, à mon point de vue. On est tous déjà pleinement acceptés. Il y a vraiment une grosse différence entre le jugement des saints et le jugement des autres. Et c'est pour ça que Notre job, c'est de prier pour ceux qui ne connaissent pas encore cette porte de salut qui est Jésus mort à ta place. Nous prions et nous parlons et nous envoyons des missionnaires. C'est ça notre job. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. Je vais peut-être terminer avec cette maxime que j'ai entendue quelque part par rapport à nous devant le jugement. On n'est pas meilleur que les autres. Et certains d'entre nous, on est encore en train de nous débattre avec le péché. Hein? Personne d'entre nous n'est encore de l'autre bord. Alors, une partie du travail de l'Église, c'est qu'on s'entraide les uns les autres à vaincre le péché. Et on est humbles les uns envers les autres pour nous encourager. L'évangélisation, ce n'est pas un riche qui aide un pauvre. C'est un mendiant qui dit à un autre mendiant où il a trouvé du pain. Et où est-ce qu'on a trouvé du pain? C'est au pied de Jésus, n'est-ce pas? Alors, continuons à inviter nos bien-aimés, qui qu'ils soient, peu importe ce qu'ils ont commis comme crime ou comme péché, les inviter à la croix, à Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Je vais inviter l'équipe musicale à s'approcher et pendant que je vais peut-être dire un mot de prière. Dieu, que ton règne vienne. Dieu, ton cœur souffre en voyant le péché, en voyant les humains ne pas vivre pour ce pourquoi tu les as créés. Alors, Père, que ton règne vienne. Aide-nous à comprendre ton jugement pour mieux annoncer ta grâce et ton pardon.